Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. C'est la deuxième offensive du pouvoir polonais contre les médias. Après avoir muselé les médias publics, l'équipe conservatrice de Varsovie a décidé de porter un coup fatal à la presse indépendante. Une presse encore libre, parce que financée de l'extérieur. Alors le pouvoir nationaliste de Beata Szydło a décidé, à travers une loi, de couper ce financement étranger. Et c'est le reportage de Maja Szymanowska.
C'est la chaîne Trwam, la télévision ultra-catholique de l'éminence grise de l'église de Pologne, Tadeusz Rydzyk, qui est choisie par Jarosław Kaczyński, le chef de file du parti conservateur PiS, pour annoncer les défis qui attendent son gouvernement à la rentrée. Dans sa ligne de mire, les médias indépendants.
La question de la déconcentration des médias est sur la table et nous nous attendons à beaucoup de résistance.
La mise au pas des médias publics a en effet provoqué depuis un an une vague de manifestations dans tout le pays. Un pays divisé aujourd'hui en deux entre ceux qui lisent le quotidien Gazeta Wyborcza et regardent la télévision privée TVN et ceux qui choisissent les médias publics ou les médias catholiques du père Rydzyk. Jarosław Kurski, rédacteur en chef de Gazeta Wyborcza, reçoit dans sa rédaction un immeuble moderne posé dans un écrin de verdure.
Nous faisons ce qui est le devoir de tout journaliste. Nous vérifions les faits, nous tentons d'établir la vérité. En revanche, les médias avant appelés publics, mais qui aujourd'hui n'existent plus, sont devenus des médias gouvernementaux du parti Droit et Justice, avec à leur tête l'ancien spin-doctor du parti, un homme politique, le vice-ministre de la Culture.
Sans vouloir prononcer son nom, Jarosław Kurski évoque son frère cadet, Jacek, qui depuis un an est à la tête de la télévision publique et qui l'a transformé en un véritable vecteur de propagande du parti conservateur au pouvoir. Car dans la famille Kurski se joue une véritable tragédie antique, comme dans beaucoup d'autres familles polonaises. Revenons un an en arrière, en août 2016, mourait la mère des deux frères Kurski, Anna. Les deux frères sont tombés dans les bras l'un de l'autre, mais cette réconciliation a été de courte durée. Depuis ce jour, ils ne sont plus reparlés ni revus. Désormais, ils se livrent une guerre sans merci à travers leurs empires médiatiques. La télévision publique est devenue un outil à la botte du PiS et les conservateurs ont attaqué les médias indépendants comme Gazeta en interdisant aux annonceurs d'acheter les encarts publicitaires dans le journal. Toute l'administration ainsi que les tribunaux ont résilié aussi leur abonnement à Gazeta Wyborcza au grand regret de Jarosław Kurski.
Avant, les entreprises publiques se préoccupaient de la société. Aujourd'hui, elles suivent la politique du parti, obéissent aux ordres et elles sont partie prenante du système politique mis en place par le PiS. Elles constituent un morceau de la pyramide au sommet de laquelle trône Jarosław Kaczyński.
Mais Gazeta a tenu le coup, notamment grâce aux abonnements numériques qui ont explosé. Et vit ses jours les plus glorieux.
Je n'ai jamais reçu autant d'encouragement de la part des lecteurs. Ils m'arrêtent dans la rue et me disent « Gazeta, tenez bon, on n'imagine pas la vie sans vous ». Sans Gazeta, tous ces gens pourraient étouffer. Nous leur fournissons une dose d'oxygène. C'est pourquoi le pouvoir nous déteste autant. C'est pour cela qu'ils veulent nous détruire avec cette loi sur la déconcentration, en nous coupant nos financements.
Le nouveau projet de loi devrait être présenté dès la rentrée. Il consiste à fixer un seuil de 15% pour l'apport de financements étrangers dans les groupes de presse polonais. La mesure ne vise pas seulement Gazeta, dont 20% de capital est international, mais aussi le groupe américain ITI, propriétaire de la chaîne d'information en continu TVN24, ou encore des journaux locaux entre les mains de groupes de médias allemands. Les conservateurs se dépêchent pour prendre la main sur les médias avant les élections locales programmées à l'automne 2018. En attendant, Droit et Justice continue son travail de propagande. Johanna Lasser, de l'Association de la Défense de la Démocratie.
Les médias publics ont été entièrement soumis actuellement au pouvoir en place. Et donc on peut dire qu'ils n'existent pratiquement plus en tant que médias indépendants. Malheureusement, c'est l'information généralisée qui arrive à beaucoup de foyers polonais, en dehors des grandes villes, en dehors du milieu de l'opposition. Donc c'est un problème très très grave parce que la propagande est féroce.
Une propagande qui consiste à tourner en ridicule l'opposition, à minimiser l'importance des manifestations, voire tordre les faits et critiquer toutes les décisions venues de Bruxelles. Ce lavage de cerveau, souvent assez violent, est efficace. Yohann Alasser.
Est-ce que la guerre médiatique est gagnée par le PiS ? J'espère que non, mais malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de signaux qui prouvent que cette propagande absolument sauvage du gouvernement, ça porte ses fruits.
En effet, si l'on regarde les sondages, de plus en plus de Polonais sont séduits par le virage autoritaire opéré par les conservateurs. Aux dernières nouvelles, plus de 40% seraient prêts à revoter pour le parti de Jarosław Kaczyński.
Voilà un rappel pédagogique et pertinent que se propose de faire cette nouvelle exposition à Bruxelles. L'Europe et ses héritages musulmans, l'islam, c'est aussi notre histoire. De la conquête musulmane de l'Espagne et l'Empire ottoman et à la colonisation, la civilisation musulmane a laissé beaucoup de traces en Europe en 13 siècles de présence. Lakshmi Lota a visité cette expo pour nous.
Une affiche annonce l'exposition un peu partout dans la ville avec en lettres majuscules le mot « islam ». Dans le contexte actuel d'attentats, de menaces terroristes, le public pourrait avoir des a priori négatifs, avouent les concepteurs de l'exposition. Mais pour eux, elle est d'autant plus importante. Objectif, rappeler les héritages laissés par la civilisation musulmane en Europe. Benoît Remiche, directeur artistique de l'exposition.
Si on interroge l'homme de la rue en Belgique mais en France, il va penser que la présence musulmane est récente avec l'importation massive de main d'œuvre pour réaliser les grands travaux, le métro, aller dans les charbonnages ou dans la sidérurgie. Et ce que nous voulions montrer, c'est que il y a 13 siècles de présence musulmane en Europe, d'abord en Andalousie, puis en Sicile, puis c'est l'Empire ottoman qui investit tout le pourtour de la Méditerranée, les Balkans, puis c'est l'expansion de l'Europe aux colonies, et donc de dire il y a une présence ininterrompue depuis 13 siècles.
Ces traces concernent des savoirs en astronomie, en mathématiques. Ce sont par exemple les Arabes qui apportent le jeu d'échecs ou les chiffres dits arabes en Europe depuis l'Inde. Abricots, melons, aubergines ou encore persil sont introduits sur le continent. Les différentes conquêtes ont inspiré les artistes en peinture avec le courant orientaliste. En musique, on peut ainsi entendre la marche turque de Mozart. Il nous reste des mots issus de la langue arabe comme élixir, azimut ou satin. Avec la colonisation, ce sont les domaines de la publicité, de la mode, de l'architecture qui s'emparent de cette thématique. Enfin, la deuxième partie de l'exposition laisse la place à des artistes contemporains pour s'interroger sur l'islam en Europe aujourd'hui.
Au bord du Danube, en Serbie, quelques pêcheurs professionnels arrivent encore à vendre leurs prises sur les marchés et dans les restaurants. Même si la pollution et l'édification de barrages comme celui des portes de fer ont déjà réduit les stocks halieutiques du grand fleuve. Et désormais, un autre fléau menace ces pêcheurs, la dérégulation économique du secteur. Reportage Laurent Gélin.
Sarjan n'avait pas rêvé de cette villa. Mais après la faillite de son entreprise à Belgrade, il est revenu à Golubac, sa ville natale, à l'entrée du défilé des portes de fer. Le rituel est le même chaque soir, mettre un peu d'essence dans le moteur de la barque, observer les courants du Danube et poser les filets en espérant que la chaleur de l'été tombe un peu, pour que les poissons quittent le fond du fleuve.
Les vieux pêcheurs disent que c'était mieux autrefois, qu'il y avait beaucoup plus de poissons. Cette saison, avec deux sorties par jour, on prend en moyenne 7 ou 8 kilos. Et souvent, ce ne sont que de petites prises.
À chaque pêcheur, ses secrets et ses techniques préférées.
Cela dépend du type de poisson et de l'eau. Mais je pense que la meilleure technique, c'est le filet dérivant que l'on jette et que l'on ramène immédiatement. Nous avons de grands filets qui descendent à 3 ou 4 mètres. On les jette et on fait tourner le bateau.
La frontière avec la Roumanie passe au milieu du fleuve. Les Serbes doivent veiller à ne pas la traverser pour ne pas rentrer dans l'Union européenne, sous peine de se faire saisir leurs bateaux et leur matériel. Il y a encore 15 ans, les pêcheurs professionnels étaient 2000 en Serbie. Aujourd'hui, ils sont à peine plus de 300. Et la raréfaction de la réserve halieutique, la dérégulation du marché et la hausse exponentielle des charges menacent leur métier. Dragoljub Bristić est le président de l'Union des pêcheurs professionnels du Danube.
Il n'y a que l'Europe qui pourrait faire quelque chose, remettre un peu d'ordre dans tout ça. On vend les poissons qui viennent de n'importe où au marché. Ça fait les affaires de personne. On dit qu'on est pour l'Europe, mais quelle hypocrisie! On en est bien loin.
Dans un pays où le chômage touche officiellement 20% de la population active et où les faibles salaires ne permettent pas de survivre dans les campagnes, la vente illégale de poissons est un bon moyen d'arrondir ses fins de mois. Cette ubérisation de la pêche met en danger la survie même des espèces du fleuve, dont les populations ont déjà subi un déclin important depuis l'ouverture du barrage des Portes de Fer en 1972. Damir possède une barque à proximité de Belgrade.
On arrive juste à survivre. Là, ça fait 7 jours que les températures dépassent les 30 degrés. L'eau est à 26, les poissons se cachent, c'est dur de les attraper.
Pour accroître leurs marges et répondre à la forte demande, de plus en plus de restaurants servent des pangas d'élevage importés du Vietnam en les faisant passer pour des poissons du Danube. Damir espère pourtant pouvoir un jour vivre de son métier.
C'est rentré dans le sang, c'est comme une drogue. Mon père était un pêcheur amateur. Il m'a fait aimer le Danube. Et j'ai choisi ce métier. J'ai grandi sur l'eau, j'aime ce fleuve. J'ai trouvé ce travail, j'ai économisé un peu d'argent et j'ai acheté une barque, un moteur, des filets et je m'y suis mis.
Face à la dérégulation du marché, les pêcheurs professionnels serbes demandent que le gouvernement accentue ses contrôles. Mais peu de chances que ce dernier prenne le risque de mécontenter les 70 000 amateurs titulaires d'un permis de pêche qui constituent un réservoir de voix non négligeable lors des élections. Dragoljub Bristić.
Ils ne font rien. Regardez, ça les arrange que les rives soient comme ça, sales, à l'abandon. On le voit bien, mais si on se révolte, ça ne leur plaît pas, parce que l'administration ne fait rien du tout.
Depuis l'éclatement de la Yougoslavie et la chute des régimes communistes d'Europe de l'Est, la plupart des grandes usines qui bordaient le Danube ont fermé leurs portes, ce qui a permis de faire baisser sensiblement la pollution industrielle des eaux. Mais les égouts des grandes agglomérations serbes continuent de se déverser dans le fleuve et il n'y aura bientôt plus assez de poissons pour tous ceux qui tentent de survivre en vendant illégalement leur pêche.
La technologie vient en aide à la préservation des monuments historiques. C'est le cas en Espagne pour la protection de la fameuse muraille d'Avila avec un projet pilote européen. Explication François Musso.
À l'œil nu, bien entendu, il est impossible de le deviner. Tout au long de la très célèbre muraille de l'époque médiévale, des dizaines de capteurs de la taille d'une boîte d'allumettes sont dissimulés. Des capteurs qui transmettent en temps réel des informations à une banque de données, informations qui permettent de détecter un danger, une menace, pour cette œuvre d'art. On a par exemple pu savoir que l'humidité pénètre dans le vieux mortier de ces murailles et qu'elle la met en péril. Tous ces dispositifs intelligents renseignent beaucoup. Grâce à eux, on connaît non seulement l'humidité du bâtiment, mais aussi un millier de facteurs qui risquent de l'affecter. Luminosité, température, fissure, présence ou non d'insectes xylophages, ceux qui mangent le bois, etc. Et ces capteurs ne sont pas seulement dissimulés le long des murailles, mais aussi dans la cathédrale, sur les palais, les églises, le complexe archéologique juif, les jardins de San Vicente et bien d'autres trésors du patrimoine. Cette technologie de pointe ne sert pas seulement à protéger les monuments, à anticiper les outrages du temps et à les défendre face à divers ennemis, mais aussi à optimiser la fréquentation touristique, à mieux répondre aux attentes des visiteurs. Ici, on en compte 400 000 par an, en majorité de Madrid. C'est beaucoup pour une ville de 150 000 habitants et pour son économie. Or, ces capteurs permettent aussi d'améliorer les services, de renseigner sur les flux, de calculer l'efficacité énergétique du patrimoine, donc sa rentabilité. Un des responsables du projet a bien résumé les choses. C'est une irruption technologique du 21e siècle afin de préserver et mettre en valeur le 16e siècle. Uno, due, tre.
Music.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors avec vous, on prend la direction de l'Italie avec un clin d'œil au folklore local.
On s'arrête aujourd'hui sur l'étonnant nouvel album de Vinicio Capossela, figure singulière de la scène musicale italienne dont il explore régulièrement les racines folkloriques au fil de disques qui sont également ouverts sur le monde. Et à 52 ans, le Milanais fait coup double avec un album en tout point exceptionnel, une collection de chansons réparties sur deux disques que Vinicio Capossela présente comme les deux faces d'un même projet. L'une dite face de la poussière exposée au soleil, enregistrée lors de l'été aride de 2003, et l'autre dite face de l'ombre, qui a été enregistrée 10 ans plus tard et convoque fantômes et loups-garous sous la lumière blafarde de la lune. L'une comme l'autre s'inspire du monde folklorique rural, qu'il soit italien ou américain. Je vous propose de braver le soleil avec un extrait du volet Paul Verret, Poussière.
L'acqua chiara la fontana, andava l'acqua chiara la fortuna, nel fresco camminava e all'ombra lo incontrò un cavaliere che le domandò: e dove andate mai così splendente, mia signora? E dove andate mai così da sola? All'acqua voglio andare, andare per specchiar la veste nuova che mai si sporcò. A se potessi ber quell'acqua chiara, a se potessi berne almeno un'ora, 30 marenghi d'or vi vorrei regalar, se potessi questa arsura rinfrescare. Ma io non tengo tazza né bicchiere, cavaliere, io non tengo tazza né bicchiere, e l'arsura che vi arde in gola e che vi asciuga il cuore non vi posso rinfrescare. Ma io non voglio tazza né bicchiere, io non voglio tazza né boccale, ma questa notte sotto al ciel, nelle vostre braccia, io con voi vorrei giacere. E questo non vi posso dire sola, cavaliere, e questo non vi posso dire da sola, ma chiederò per voi il permesso di restare a chi mi fece adatta a voi piacere. E mamma, mamma, senti, ascolta bene il cavaliere, se quello che mi chiede sia da me. 30 marenghi d'or per il permesso di restare con lui tutta la notte sotto al cielo. E fallo, figlia mia, tu fai del bene al cavaliere, e fallo, figlia mia, fallo perché quei marenghi d'or son la dote che ti dà la sola dote che ti dà mamma. Quei marenghi d'or son la dote che ti dà la sola dote che ti dà mamma. A mezzanotte sospirava il cavaliere, e che tenete che vi affanna e strugge, cavaliere, non è che voi piangete le marenghe che mi avete date, che per sempre vi han lasciato. No che non piango loro ma il dolore, mia signora, no che non piango loro ma il dolore, perché mattine ormai con l'alba me ne andrò e a giorno fatto qui più non sarò. Perché mattina ormai con l'alba me ne andrò e a giorno fatto qui più non sarò.
On se quitte avec cet extrait du nouvel album de Vinicio Capossela. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine à la réalisation Françoise Grelot. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur RFI.fr et sur notre page Facebook. Ne zappez pas dans quelques instants les infos.